Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Diaran Diaye.
Bonjour à toutes et à tous. Ce mois de juillet est particulièrement chaud en France. C'est un risque notamment pour les personnes âgées, parfois diminuées par des pathologies liées à leur grand âge. Les retraités sont de plus en plus nombreux à nécessiter des soins particuliers. Ils se retrouvent en situation de dépendance chez eux ou en maison de retraite médicalisée, c'est-à-dire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé EHPAD. Juillet rime également avec les départs en vacances du personnel médical. Conséquence, les effectifs sont tendus au sein de ces établissements, établissements où vivent 728 000 retraités. Il y a quelques mois, le personnel de ces maisons de retraite s'est fortement mobilisé pour dénoncer leurs conditions de travail lors d'une grève inédite. Quelles conséquences pour les résidents? Que se passe-t-il dans les maisons de retraite? Comment fonctionnent ces EHPAD? Et surtout, comment s'organisent ces établissements, notamment en cette période de forte chaleur? Pour en parler, je suis en ligne avec le docteur Nathalie Maubourguet, médecin coordonnateur dans 3 EHPAD en Gironde, présidente de la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD. Il y a également Paula Layton, aide-soignante à l'EHPAD La Renaissance à Pessac en Gironde. Merci d'ailleurs à France Bleu de nous permettre de réaliser ce direct en direct de Bordeaux. Et avec moi en studio, Claudine Rulot-Balta qui a un mari pris en charge dans un EHPAD dans le 19e à Paris. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et nous retrouverons en Côte d'Ivoire professeur Yves Binan qui est gériatre agrégé de médecine interne, chef du service de médecine interne et de gériatrie du CHU d'Angrée à Abidjan. En fin d'émission, nous faisons le point sur une unité innovante pour la prise en charge ambulatoire des troubles du comportement alimentaire chez l'adolescent à l'hôpital Jean Verdier, à PHP de Bondy, avec le docteur Noël Pompuy, pédopsychiatre, psychiatre, thérapeute familial.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Nathalie Maubourguet, il fait chaud, hein, on le voit en ce mois de juillet, ça fait du bien. Mais alors, face à cette chaleur des derniers jours, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières dans les EHPAD où vous travaillez?
Bonjour, oui, bien sûr. Depuis cet événement de 2003 où il a fait très très chaud, hein, puisqu'on avait suite à ça déclenché des mesures tout à fait spécifiques pour les personnes âgées. Il faut dire que depuis 2003, les équipes sont très très opérationnelles et que par ailleurs, les différents ministères ont également prévu l'organisation de plans bleus, de plans blancs, donnant des directives très précises pour les directions d'établissement, pour les médecins coordonnateurs et pour les équipes également. Donc chacun sait précisément ce qu'il doit faire. Vérifier les équipements, vérifier qu'il y a des endroits rafraîchis pour les personnes âgées, adapter l'alimentation pour les personnes âgées, faire en sorte que la circulation de l'air soit organisée en fin de matinée et de nuit et ensuite fermée durant la journée. Donc toutes ces mesures-là, tout le monde les connaît par cœur, c'est devenu aujourd'hui un réflexe pour nous, ainsi que l'adaptation avec les confrères généralistes des traitements également, puisque sont recensés différents profils de résidents, donc des personnes qui ont besoin d'aide pour boire simplement, qui peuvent boire tout seuls, donc qui peuvent dans ce cas être aidés par un bénévole ou par la famille, une catégorie de personnes qui a vraiment besoin d'aide et une catégorie de personnes qu'il faut vraiment laisser prendre en soin par les soignants, puisqu'ils ont parfois des troubles pour avaler. À ce moment-là, il faut adapter la texture de l'alimentation et surtout des liquides. Et du coup, on demande aux familles de ne pas intervenir dans ce domaine-là. Et ensuite, on adapte les traitements.
Paula Layton est à côté de vous. Elle est aide-soignante. Oui. Bon, c'est une question qui peut faire sourire nos auditeurs africains. Mais quel geste vous pratiquez au quotidien pour éviter cette catastrophe sanitaire dont on a parlé de 2003, Paula Layton?
Donc, bonjour. Nous, on a tous les jours, pendant les plans canicules, on doit adapter notre travail en fonction de la chaleur de la journée. C'est-à-dire qu'on ferme tous les stores à partir de 10h, on ramène tous les résidents dans les salles climatisées, on ferme toutes les fenêtres, on les fait boire. Comme disait le docteur Maubourguet, liquide, eau gélifiée, tout ça. Mm-hmm. Donc on se retrouve tous dans les salles à manger climatisées pour les hydrater. Pour les hydrater toute la journée.
Toute la journée. Vous, madame Claudine Rulot-Balta, votre époux est dans un EHPAD dans le 19e. Est-ce que ces chaleurs, vous les redoutez pour lui ?
Pas tellement, parce que les mesures que viennent d'indiquer les précédentes intervenantes sont effectivement appliquées. Ça, je peux en témoigner. Et d'une façon efficace, je veux dire. La clim,
L'eau.
Enfin, toutes les mesures, la fermeture des volets en tout cas appliquées dans cet établissement, avec une attention particulière pour les personnes qui ont des difficultés à boire, comme par exemple mon époux, qui fait ce qu'on appelle un risque de fausse route en buvant. Et donc, on prend soin.
Les mesures particulières sont appliquées, en tout cas. Alors, on va essayer de comprendre ce que sont ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Tout de suite, témoignage d'une directrice d'un EHPAD du groupe Arpavi, situé en banlieue parisienne où résident 70 personnes. Quelle prise en charge des personnes âgées et dépendantes aujourd'hui en France ? Réponse au micro de Raphaël Constant.
Je dirais qu'aujourd'hui, par rapport lorsque j'ai commencé il y a 12 ans, l'EHPAD s'est fortement médicalisé. Tout simplement parce que nous accueillons des personnes de plus en plus dépendantes, multipathologiques et présentant des troubles cognitifs plus ou moins modérés. Mais en tous les cas, on a de plus en plus de personnes atteintes de maladies dégénératives et l'EHPAD doit aussi pouvoir répondre à cette prise en charge médicale, raison pour laquelle... En tous les cas, dans l'établissement que je conduis, nous disposons de médecins, cadres de santé, personnel soignant diplômé, psychomotricienne. Mais aussi, il faut pas oublier qu'avant d'être un lieu médicalisé, l'EHPAD, c'est un lieu de vie qui passe notamment par la prestation hôtelière. Un temps aussi qui est essentiel, c'est le temps des activités, pour permettre aux résidents d'oublier son état pathologique, d'oublier ses souffrances, d'oublier ses douleurs et son état dépressif qui est généré par justement cet état de vieillissement. Voilà, donc c'est à nous justement de faire en sorte qu'on illumine un petit peu ces journées par autre chose que le médicament. J'ai une résidente qui tient absolument à avoir son croissant tous les matins au petit déjeuner, parce que rien qu'un truc comme ça, ça lui apporte un apaisement, et sinon ça lui gâche toute sa journée, ça n'a pas son croissant. Voilà. C'est aussi ça le projet personnalisé, c'est aussi ça les habitudes de vie, à partir du moment où nous, dans l'organisation, on peut le faire, parce que c'est pas toujours simple de s'adapter aux besoins individuels de chaque résident.
Et en termes de soins et de prise en charge, de combien de personnes est composée vos équipes ?
En semaine, nous avons 7 soignants par jour. Chacun des soignants prend en charge à peu près 10 et 11 toilettes, ce qui est important. Nous sommes actuellement sous-effectifs. On est confronté au fait qu'on a des personnes de plus en plus, je dirais, lourdes en prise en charge, qui nécessitent un temps de toilette de plus en plus long. On fait une certaine gymnastique pour arriver à s'adapter par rapport à ça, ce qui fait qu'on doit absolument, pallier cette insuffisance d'effectifs, renforcer l'encadrement, c'est-à-dire il faut qu'un encadrement soit très présent. N'hésite pas à revoir la répartition de la charge de travail pour toujours essayer d'équilibrer la charge de travail au plus juste et de façon le plus équitable possible pour chaque salarié. C'est être au plus près du soignant pour ne pas le lâcher tout seul dans sa difficulté et faire un travail d'accompagnement. C'est ça notre métier aussi. Par mes propos, je dirais que cela évoque justement les grèves qui ont eu lieu en 2018. Ces mouvements sociaux sont tout à fait légitimes par le fait qu'effectivement, aujourd'hui, les EHPAD ne sont pas dotés en fonction justement des besoins auxquels on doit faire face. On oublie aussi effectivement que la plupart des personnes aujourd'hui se retrouvent en fauteuil roulant. Donc ça nécessite aussi du personnel pour aider les gens à se mobiliser, à bouger dans l'établissement, d'où la difficulté aussi d'organiser, par exemple, on nous demande de faire des sorties extérieures, mais c'est compliqué de faire des sorties extérieures. Si vous voulez sortir 15 personnes dont plus de la moitié sont en fauteuil roulant, comment on fait ? On n'a pas parlé non plus du temps du repas, mais là aussi, on a besoin de plus en plus de monde pour faire manger, pour stimuler les gens, puisque la dépendance, ça a un impact aussi sur le repas, parce qu'on a des résidents qui mangent au bazar, on a des résidents qui peuvent manger en plateau dans les chambres, et puis on a des résidents qu'on doit aider dans la salle restaurant. Et pour l'instant, on est un peu contraint par nos effectifs.
Par rapport à tout ce que vous avez évoqué, pour vous, comment en France on pourrait avoir une meilleure prise en charge des personnes âgées et dépendantes ?
Je dis toujours qu'un EHPAD, c'est une équipe. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'EHPAD. Il faut savoir s'entourer de collaborateurs qui soient en capacité de prendre en charge les résidents, psychomotriciennes, psychologues, ergothérapeutes. Voilà, ce sont des professionnels dont nous avons besoin aujourd'hui. Un EHPAD qui tournera bien, ce sera déjà un EHPAD où le pilier directrice, médecin coordinateur et IDEC est présent auprès des équipes, encadre, professionnalise, forme. Voilà, c'est ça le travail aujourd'hui en EHPAD.
Pas d'équipe, pas d'EHPAD. Les EHPAD fonctionnent donc avec une coordination de beaucoup de professionnels. Madame Rulot-Balta, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage ?
Il est d'une justesse extraordinaire et je peux y ajouter le fait que l'ensemble des équipes soignantes, qu'elles soient médicales, psychologiques, kinés, enfin tout ce que vous voudrez, que le personnel, et notamment dans le domaine aide-soignant, est nettement insuffisant. Il faudrait à la fois plus... Vous l'avez entendu, faire les toilettes de 10 à 12 personnes qui sont souvent, qui ne peuvent même plus quelquefois bouger, céder parce que...
C'est lourd, c'est difficile.
C'est très douloureux, très difficile. Et le personnel est insuffisant. Il faudrait que les personnes, le personnel soignant soit, si je peux dire pour résumer, mieux formé, plus nombreux et surtout mieux payé. Parce que c'est une des professions où il n'y a pas de chômage.
Il n'y a pas de chômage et pourtant il y a eu des revendications il y a quelques mois autour des conditions de travail du personnel des EHPAD. Paula Layton, une réaction par rapport à cette organisation des EHPAD qui est difficile.
On manque de personnel, ça c'est sûr. Le travail fait peur parce que justement le travail devient de plus en plus lourd. Il demande plus de temps et on n'a pas assez de personnel, ça c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord, de toute façon, tout ce qui s'est dit. C'est ça. Et le salaire ne suit pas, de toute façon.
Et le salaire ne suit pas. Docteur Nathalie Maubourguet, vous travaillez dans plusieurs EHPAD et depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez constaté une évolution aujourd'hui du fonctionnement de ces EHPAD ?
Complètement, puisque j'ai la chance d'être un des premiers médecins coordinateurs en Gironde. Et d'ailleurs, Paula Layton, je travaille avec elle depuis plus de 15 ans, puisqu'on a travaillé ensemble dans un autre établissement. Donc, on était toutes les deux aux prémices, le début des premiers établissements. À cette époque, il y avait quelques établissements qui avaient été sollicités pour participer à être les premiers EHPAD. Personne ne savait ce qu'il fallait faire, comment ça allait devenir, du directeur au médecin coordinateur. Bon, l'aide-soignante avait déjà son rôle, mais qui a bien évolué ces 15 dernières années, dans le sens où ils apprennent à l'école à prendre soin des personnes, alors pas que âgées d'ailleurs, il y a très peu de modules et pas assez, on l'a déjà sollicité également, de renforcer pour les personnes qui s'orientent, enfin les aides-soignants qui désirent travailler en gériatrie, de faire davantage de gériatrie durant leurs études. Mais c'est surtout un métier qui a évolué. Ils sont évidemment près des personnes, mais on leur demande également de remplir différents documents. Voilà, tout à l'heure, on parlait du plan canicule. Mmh. Et à chaque fois qu'un aide-soignant donne un verre d'eau ou donne à manger, il note les quantités ingérées par la personne. Je ne sais pas si vous voyez le travail que ça demande. C'est considérable. Ils doivent non seulement être auprès des gens être évidemment très proche d'eux, leur accorder toute leur attention, mais ensuite ne pas oublier de noter l'intégralité de leurs actes, ce qui est quand même juste très très considérable comme travail. Donc déjà qu'ils sont pas suffisamment nombreux, aujourd'hui le métier a évolué parce qu'on leur demande de faire des évaluations de la dénutrition, de faire des évaluations sur la prise en charge des escarres,
d'être
des évaluateurs également. Voilà, plus de travail à la fois auprès des personnes qui dépendent, qui sont de plus en plus dépendantes, mais également un travail, un rôle de soignant en amont et de prévention qu'ils n'ont pas appris.
Et Paula Leighton, d'après vous, ce mouvement de grève a été totalement inhabituel. Pourquoi ça a explosé maintenant? Les problèmes dans ces domaines sont plutôt connus depuis un moment.
Oh, je pense que c'est un ras-le-bol général, des soignants. On nous en demande beaucoup et c'est vrai que en 20 ans ça a évolué, on nous demande de plus en plus, toujours de plus en plus, et on n'arrive plus à gérer tout ça.
Alors aujourd'hui il y a des traitements très différents d'un EHPAD à un autre. Vous, Madame Rulot-Balta, votre époux de 89 ans est en EHPAD, et dans un EHPAD, celui de la résidence des Jardins de Belleville, dans le 19e arrondissement de Paris. Comment est venue la décision de le placer?
Parce que d'abord il était malade depuis l'an 2000, c'est-à-dire que pendant 16 ans pratiquement il est resté à la maison, mais avec des séquelles d'un AVC et d'une hémiplégie du côté gauche, et que des surcroît de problèmes de santé ont fait qu'il n'était absolument plus possible qu'il reste à la maison, même avec une aide médicale ou ménagère, et que comme nous sommes en plus tombés deux fois tous les deux, notre entourage et les médecins ont dit que c'était peut-être temps d'envisager une autre solution, dont celle de l'EHPAD, puisque il y a effectivement la surveillance médicale
qui est proposée dans ces établissements,
qui est systématique.
Est-ce que vous avez culpabilisé au moment de le placer?
Non, pas du tout. J'ai regretté, si vous voulez, mais je n'ai pas culpabilisé, en me disant que
c'était la bonne décision.
C'est ce qu'il lui fallait maintenant pour vivre dans des conditions, disons, correctes.
Et comment lui a-t-il vécu cette décision?
On a maintenu la fiction, on essaie de la maintenir encore, je ne sais pas si de son côté elle dure toujours, que c'est un placement temporaire. Comme on va en maison de repos pour 2 mois, 3 mois, et qu'on revient ensuite à la maison.
On fait semblant pour l'instant, mais quand? Et sur quels critères vous avez choisi l'établissement? Est-ce que vous êtes satisfaite de l'établissement?
Globalement, oui. Il y a toujours à redire pour tout le monde, partout, mais globalement, oui. Le choix, il y a d'abord un problème financier,
oui,
et un problème de proximité, parce que les prix sont extrêmement variables et dans l'ensemble très élevés. Et la proximité, c'était la mieux, puisque c'est celle qui est maintenant, là où il est, c'est, en tout cas pour moi, c'est celle qui est la plus près de la maison.
Oui, le coût moyen d'un EHPAD en France est de 1740 euros par mois. C'est quand même à préciser, c'est un coût.
Non, à Paris, c'est beaucoup plus cher.
Pour la France entière, en tout cas, la moyenne, c'est 1740. Alors sur Paris, effectivement, la capitale, ça peut être un peu plus cher. Tout à l'heure, dans le reportage qu'on a écouté, la directrice d'EHPAD parlait d'un projet personnalisé. Est-ce que c'est le cas pour votre mari? Est-ce que c'est appliqué réellement?
Non, je pense que ça n'est pas appliqué parce que c'est très difficile compte tenu du nombre de résidents d'une part, de la différence de leur statut physique et mental, et du manque de personnel. Donc, effectivement, le personnel soignant, en particulier médecins, kinés, ergothérapeutes, etc., s'efforce de faire de leur mieux, mais dire qu'il peut y avoir un suivi personnel régulier, ça me paraît, en l'état actuel des choses, très difficile.
Et Madame Rulot-Balta, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans ces maisons?
Moi, personnellement?
Oui.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Qu'est-ce que ça vous évoque, la dépendance?
Déjà, il y a deux sortes de dépendances. Il y a la dépendance physique et la dépendance mentale. Tant que ça n'est qu'une dépendance physique, ça n'est pas plaisant, certainement, mais on fonctionne. Tandis que la dépendance mentale, c'est ce qui fait le plus peur, parce qu'on est livré aux autres. on n'est plus soi-même.
Et est-ce que l'attention que vous portez à votre mari, parce que je sais que vous allez le voir très fréquemment, même tous les jours.
Tous les jours.
Voilà, tous les jours. Vous avez le sentiment que la société a abandonné ses vieux. Est-ce que c'est un cliché pour vous ou plutôt la réalité?
Non, je pense que c'est entre les deux. Parce qu'il y a une chose, c'est que la population française a énormément vieilli. En une génération, on a gagné, si j'ose dire, pratiquement une génération. Quand j'étais jeune, c'était les enfants qui fêtaient le départ à la retraite de leurs parents.
De leurs aînés, oui.
Maintenant, c'est les parents qui fêtent le départ à la retraite de leurs enfants. C'est complètement différent.
Une nouvelle vie. Alors, on va continuer à parler des EHPAD. On va faire juste un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Vous écoutez RFI. Priorité Santé parle aujourd'hui des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, également connus sous la dénomination de maisons de retraite. Je suis toujours en compagnie du docteur Nathalie Maubourguier, médecin coordonnateur dans trois EHPAD en Gironde, présidente de la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD, de Paula Layton, qui est aide-soignante à l'EHPAD La Renaissance à Pessac en Gironde, et Claudine Rulot-Balta, qui a un mari pris en charge dans un EHPAD parisien. Et merci encore à France Bleu de nous permettre de réaliser ce direct en direct de Bordeaux. Et nous rejoignons en Côte d'Ivoire le professeur Yves Binan, qui est chef du service de médecine interne et de gériatrie du CHU d'Angré à Abidjan. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Alors vous êtes gériatre en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une discipline qui est répandue?
Non, pas du tout, elle est neuve. On n'a pas eu la chance, nous on n'a pas eu la chance en prédoctoral de faire de la gériatrie. On l'a fait en post-doctoral, en venant faire la capacité de diplôme en français après notre assistanat.
Il y a combien de gériatres en Côte d'Ivoire?
Alors, il n'y a pas plus de 5.
C'est très peu.
Plus de 5.
C'est très très peu.
Mais je dois dire que la formation se fait actuellement en pré-doctoral et nous l'organisons en post-doctoral.
Les EHPAD dont on parle depuis le début de l'émission ne sont pas des établissements qui existent en Côte d'Ivoire. Expliquez-nous pourquoi, professeur.
Mais parce que je dirais que en Afrique, les seniors, j'aime pas trop le mot vieux, les seniors sont gardés en famille. D'abord à la campagne, et puis en ville, les parents, les plus jeunes s'en occupent. Donc, pour l'instant, ce concept d'EHPAD n'a pas encore vu le jour.
Alors, comment sont prises en charge les personnes âgées quand elles ne sont pas prises en charge par leur famille?
Alors, elles font des consultations, donc à la demande des parents, ou bien à la demande même des seniors, parce que des seniors qui sont pas déments, qui n'ont pas de troubles cognitifs, peuvent exprimer certaines gênes, et donc ces personnes-là fréquentent les hôpitaux publics. Donc la prise en charge va s'organiser en hôpital de jour, donc en consultation, en hôpital de jour, en soins de suite, parce qu'on a on travaille aussi avec le service de médecine physique, où on peut faire de la kinésithérapie, on fait également de la prévention, voilà comment s'organise. Et puis il y a l'hospitalisation, quand il y a les pathologies aiguës.
Comme quel type de pathologie, professeur?
Une pneumopathie aiguë, un paludisme. Ces personnes-là sont hospitalisées et donc sont prises en charge dans les services de gériatrie.
Et vous rencontrez des difficultés durant le traitement de ces patients?
Oui, parce que la formation la formation des infirmiers, des infirmières, elles n'ont pas ce module de gériatrie, et puis donc et puis les effectifs aussi sont réduits.
Voilà.
On n'a pas tant de personnel soignant.
Il n'y a pas beaucoup de personnel soignant. Et quand vous entendez qu'ici, les personnes âgées sont plutôt placées en maison de retraite, quel regard est porté sur les aînés en Côte d'Ivoire?
Mais on a besoin de nos aînés. On a besoin des aînés. Il est bon de les garder proches. Voilà la conception que je me fais des aînés. ils peuvent avoir une pathologie, ils sortent de la maison, ils viennent ils sont internés, ils sont hospitalisés, mais très vite, il faut qu'ils retournent chez eux. C'est plus adapté pour l'instant. Et c'est comme ça que on le fait au village. Hein. Donc, on essaie. C'est vrai qu'il y a le modernisme, mais je pense que il est bien de garder les seniors avec. Et puis, je le dirais, c'est pas la même population. Je dis qu'il y a plus de seniors en France qu'en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, effectivement. Voilà. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, justement, il y a un phénomène dont on commence à parler, ce sont ceux des vieux abandonnés? Est-ce que c'est un problème émergent en Côte d'Ivoire?
Non, pas de... Là, je pense que là, on a beaucoup plus de seniors, mais ils ne sont pas totalement abandonnés. Parce que la société, il y a, vous savez qu'on parle de gérontocratie, c'est les aînés qui dirigent, c'est les aînés qui accompagnent les jeunes dans les cérémonies traditionnelles. Quand nous sommes en ville, en milieu urbain, les aînés aussi ont leur place. Donc je pense pas, je ne vois pas sur cet
ce phénomène. Et pour conclure, professeur, vous avez un message de prévention à destination des personnes âgées?
Oui, il faut rester jeune dans la tête. Il faut bien manger, il faut boire et puis il faut avoir une activité physique.
Merci professeur pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine interne et de gériatrie du CHU d'Angré à Abidjan, Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Alors vous voulez réagir, madame, je vous
oui,
écoute.
Un petit peu, parce que dans ce qu'a dit le médecin gériatre, là ça me rappelle quand moi-même j'étais jeune, où effectivement les plus âgés, les aînés restaient à la maison. Mais seulement l'allongement de la vie, on a très mal anticipé, je crois, ça. Maintenant, en France, il y a plus d'1,5 million de personnes qui ont plus de 85 ans. Et même si on essaie de vivre le plus hygiéniquement possible, sportivement possible, il y a des choses qui ne le sont plus. Et je crois qu'en 1900, en France, il devait y avoir quelques centaines au maximum de centenaires, oui. Alors qu'aujourd'hui, il y en a plus de 20 000 chez nous en France. Et que, par exemple, j'ai connu récemment une personne qui a 104 ans, qui a, comme on dit, toute sa tête. Qui a eu deux enfants, un fils qui est mort, une fille qui a 82 ans et qui a un Alzheimer. Donc, comment est-ce que la fille peut prendre en charge sa mère?
Sa maman, ça devient compliqué. Alors, à présent, on va s'intéresser à l'organisation du personnel de ces EHPAD. Finalement, à quoi ressemble le quotidien du personnel de ces établissements? Je vais commencer par vous, vous êtes aide-soignante Paula Layton. Comment s'organise une journée type?
Déjà le matin, quand on embauche, on lit les transmissions pour savoir ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé la nuit. Et après, on attaque notre secteur. Nous, ils sont 50. On est 5 pour 50. Donc, on a chacune une dizaine de personnes à s'occuper. Et donc, on a un ordre en général, selon leur pathologie aussi, à faire. Donc on a en général jusqu'à midi et quart, midi et demi si on prend un peu plus le temps avant le repas. Après le repas, on est tout en salle ou des filles partent en plateau pour ceux qui sont en chambre. Après il y a donc la sieste, les gens qui doivent être recouchés. Après, chaque fille prend sa pause au fur et à mesure parce qu'il y a toujours une surveillance. Et l'après-midi, c'est le goûter, les ateliers qui se mettent en place, la gym, les ateliers que fait l'animatrice. Après, il y a le goûter et le repas du soir et les couchers. En gros, notre journée.
Durant les mouvements de grève, on a beaucoup entendu parler des conditions de travail difficiles. Vous nous parlez de 5 aides-soignantes pour 50 résidents. On a entendu parler de maltraitance, de douches chronométrées, de couches systématiques, par exemple, pour éviter d'accompagner les personnes aux toilettes et même qu'on mouline les aliments pour que le repas dure moins longtemps. Est-ce que ce sont des conditions dans lesquelles vous avez eu à travailler ?
Non, pas chez nous. Non, 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 pas chez nous. Nous, chaque personne a son repas, soit si c'est en mixé, c'est parce qu'il a des problèmes de déglutition, mais pas pour aller plus vite. Non, 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 ça marche pas comme ça.
Docteur Nathalie Maubourguet, je vais vous poser la question similaire. Quel est votre quotidien au sein des EHPAD où vous travaillez?
Bien, c'est effectivement l'encadrement du soin, la gestion, beaucoup de systèmes dans le sens, on travaille beaucoup en gestion de risque. Évidemment, quand on vient de l'entendre, ce que vient de dire Paula, la journée est rythmée sur le rythme de vie des résidents, mais pour nous, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas que ce rythme-là, mais il y a aussi le droit du travail, puisque les soignants, avec les conventions collectives, sont une durée de travail qui est fixée, une durée de repos qui est également fixée. Et donc tout le challenge pour la coordination des soins, c'est de faire en sorte que les soignants soient là, en forme, opérationnels, parce que la charge de travail, comme vient de décrire Paula, est lourde. Et dans ce contexte-là, effectivement, en particulier, vous l'avez signalé en début d'émission, sur ces périodes estivales, le jeu est de garder au moins toute son équipe, pour pas être en sous-effectif. Et la difficulté est, lorsqu'on intègre des intérimaires ou des personnes qui viennent travailler en CDD, c'est effectivement de leur faire, dans les meilleurs délais, appréhender nos habitudes de travail. Voilà, comme on parlait tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec le projet personnalisé d'accompagnement, c'est important qu'on personnalise l'accompagnement. On aimerait le faire davantage. Voilà, on le fait beaucoup en technique, c'est-à-dire on adapte effectivement le traitement, la texture des aliments, les protections. Alors, effectivement, il y a certainement des lieux où peut-être la tentation est forte de déraper, mais dans l'établissement dans lequel je travaille, en partenariat avec les infirmières coordonnatrices et la direction, puisque la directrice le disait tout à l'heure, c'est vraiment un trinôme incontournable, nous travaillons au quotidien pour que les équipes soignantes soient le plus confortablement possible auprès des résidents, mais il est hors de question de dériver sur des actes voilà, qu'il y avait peut-être au début, mais alors ça remonte à il y a 15 ans, mais plus par méconnaissance et mauvaise organisation que vouloir mal faire ou au contraire malveillant.
Voilà, donc ça a plutôt changé. Les charges de travail sont lourdes, on le comprend. Pour les crèches, par exemple, il y a des quotas. Là, on voit qu'il y a une problématique de temps et ou de personnel. Quel ratio il faudrait mettre en place pour s'occuper dignement des personnes âgées, docteur Maubourguet?
Alors ben là, je laisserai ensuite parler Paula, mais c'est vrai que en tant que présidente de la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD, on a demandé avec les fédérations d'établissements des quotas en personnel. Personne ne s'est risqué à le faire, on le regrette bien. Mais nous, ce que l'on demanderait, c'est au moins le champ du handicap. Voilà. Donc le champ du handicap, c'est pas rare qu'il soit 1 pour 3, 1 pour 4 maximum. Donc nous, si on était déjà 1 pour 5, on serait très heureux dans ce contexte-là, dans la journée. Et surtout, c'est bien couvrir la journée, toute la journée. Parce que tout à l'heure, Paula faisait référence à ses pauses. Oui. Parce qu'il faut bien qu'ils mangent aussi, ils arrivent très tôt. 6 heures après, ils n'ont pas eu le temps d'avaler grand-chose, donc il faut qu'ils se reposent un peu. Et souvent, c'est difficile d'organiser les horaires du travail, d'arrivée, de sortie, la gestion de la surveillance dans la structure, et c'est là que le nombre est important. Donc effectivement, si on pouvait se caler sur le champ du handicap dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps parce que moi je parle aujourd'hui de super dépendance. Voilà, quand vous savez, on classe les gens par un niveau de dépendance. Le GIR-6, c'est vous et moi, on est parfaitement autonome. Le GIR-1, c'est vraiment quelqu'un, s'il est tout seul, il ne fera rien, il ne pourra pas s'alimenter. Voilà. Et aujourd'hui,
allez-y, terminer, ensuite on
va demander l'avis à Paula. Oui, dans nos établissements, lorsque j'ai fait mon premier rapport d'activité, on avait à peu près entre 20 à 30% de personnes très dépendantes, donc GIR 1, GIR 2. Aujourd'hui, on arrive à 50 ou 60%, parfois même 70% de GIR 1, GIR 2.
Voilà. C'est énorme.
C'est énorme.
Paula Leighton, vous souhaitiez réagir à propos de ces quotas éventuellement à appliquer dans ces EHPAD?
Parce que moi, tout à l'heure, je parlais d'une journée normale, on va dire à 5. Mais il y a des jours où il y a les arrêts maladie, il y a les congés, on n'arrive pas à trouver de remplaçante. Donc, on se réorganise quand on est 4, voire il nous est arrivé de tourner à 3. Donc tout ça demande un effort considérable des soignants parce qu'il faut réorganiser tout notre travail de toute la journée parce que nous on tourne en journée de 10 heures. Donc on est là de 7h30 du matin, ça va jusqu'à 20h30 le soir. Donc il faut s'organiser avec les collègues qui sont là pour s'occuper des 50 résidents.
Après la crise justement de janvier, il y a eu un plan de prise en charge de la dépendance qui a été proposé par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il y a notamment 400 millions qui ont été débloqués pour les aides-soignants et les infirmiers, pour notamment leur recrutement. Qu'avez-vous pensé de ces mesures, Paula Layton ? Est-ce que vous êtes déçue ?
Déçue, nous, tant qu'on voit pas le... C'est-à-dire que nous, les soignants, il y a beaucoup qui font de l'intérim justement à cause de... des salaires. Les intérimaires sont mieux payés, donc du coup on a du mal à recruter des personnes en CDI qui veulent rester parce que le travail leur fait peur, parce que c'est vrai que c'est lourd. Et donc on a souvent les soignants qui passent, on change tous les jours d'intérimaire, c'est lourd pour nous, pour les titulaires. Parce que on continue leur montrer notre roulement, donc voilà, c'est lourd. Après, moi je comprends, hein, je comprends les intérimaires qui veulent rester que en intérim justement par rapport au salaire. Beaucoup d'intérimaires travaillent en intérim par rapport au salaire.
Alors, il y a une autre thématique qu'on n'a pas encore abordée, c'est celle de la maltraitance. En France, la maltraitance toucherait 600 000 personnes, selon les estimations de l'association Alma France. Quelle est la forme de maltraitance sur personnes âgées la plus répandue, docteur Maubourguet ?
Alors, bah écoutez, dans les établissements, je dirais que il est facile de profiter du fait que les personnes ont une désorientation temporo-spatiale. Il pourrait être facile, hein, c'est comme à domicile d'ailleurs, puisque d'ailleurs le gros de, la plupart des personnes âgées, heureusement, sont chez elles. Heureusement ou malheureusement des fois, parce qu'elles sont peut-être un peu aussi esselées. Mais dans ce contexte-là, de toute façon, quel que soit l'âge, dans la mesure où vous êtes plus en mesure de gérer peut-être votre budget ou d'être orienté dans le temps et dans l'espace, il est facile d'être la proie de quelqu'un qui serait malveillant. Mmh. Heureusement, dans nos établissements, nous avons... en plus, les soignants choisissent ce métier-là de travailler spécifiquement auprès des personnes âgées. Mmh. Mais il y a aussi beaucoup de recommandations et de préconisations faites aux équipes d'encadrement, à la direction, aux médecins coordonnateurs, à l'infirmière coordonnatrice. Donc, les dérapages, évidemment, il peut y en avoir. Mais s'il y a des dérapages, c'est plutôt de l'ordre de... on fait un peu plus vite que prévu. Par exemple, je peux rentrer dans la chambre sans avoir frappé parce que j'ai déjà fait 9 portes et que la dernière, j'ai oublié de frapper. Oui. Mais vraiment des actes de malveillance... c'est pas notre quotidien. Moi, je suis médecin coordonnateur depuis le début, depuis 15 ans, et j'ai eu vraiment à repérer, à dénoncer et à sanctionner 3 personnes en 15 ans sur des actes très précis. Voilà. Donc c'est très peu. Oui.
Claudine Rulot-Balta, vous avez déjà vu ou entendu parler de cela ? Vous avez eu l'expérience justement d'assistance à la maison et en maison de retraite également ?
Non, des cas de maltraitance, non. Vraiment tel quel, non. Ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est que quelquefois, c'est les patients eux-mêmes, les résidents eux-mêmes, qui peuvent être quelquefois extrêmement violents et très désagréables.
Envers le personnel.
Envers le personnel. Et ça, c'est un problème, parce que quand ils n'ont plus, comme on dit, toute leur tête, c'est quelquefois difficile de leur faire comprendre qu'il faudrait se calmer et que le personnel n'est pas là pour subir leurs outrages.
Paula Layton, en parlant justement des violences que vous pouvez éventuellement subir des résidents, est-ce que c'est le cas pour vous ?
Oh oui, c'est notre quotidien. Ah. Non, oui, ça arrive souvent, très souvent, oui. Mais on sait gérer.
Docteur Maubourguet, on pourrait juste rappeler quand même quels sont les premiers signes qui peuvent alerter les proches d'une personne âgée, qu'une personne âgée est maltraitée ?
Alors, c'est déjà le repli sur elle-même. Voilà. Bon, alors après, c'est compliqué de faire la différence entre les difficultés d'expression dues à l'évolution peut-être des troubles cognitifs. Mais bon, après, effectivement, si la personne s'amaigrit, si effectivement elle est apathique, si elle est renfermée sur elle-même, si elle n'ose pas trop faire des remarques, parce que souvent les personnes peuvent avoir peur de dénoncer si elles sont victimes d'actes de malveillance, comme elles savent qu'elles sont dépendantes des gens autour d'elles, elles pourraient se dire si je dénonce, mais tout comme les enfants qui sont victimes à la sortie de l'école, voilà, de rapt ou autre. Donc c'est toujours quand on est en situation de fragilité de s'interroger sur voilà un peu l'environnement. De toute façon, les familles ont le droit et elles peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent dans le domaine de la vie du quotidien des résidents. Et nous, de toute façon, que ce soit avec les équipes soignantes, en tout cas quand les familles nous interrogent, nous avons pour habitude de réunir l'ensemble des professionnels qui s'occupent à un moment donné du résident. Voilà.
Alors, comme ça. Oui.
Donc comme ça, la personne, la famille, le conjoint, l'enfant, a plusieurs interlocuteurs et ça lui permet, en tout cas à chaque fois d'être rassuré, parce qu'il voit que quand même, à moins d'une grosse coalition, d'une énorme pression, mais il est impossible d'obtenir un seul mot de 5 ou 10 personnes. Souvent on fait des réunions, on est 10, hein, donc dans ce contexte-là c'est plus simple.
Alors, juste avant de faire un petit tour de table pour conclure l'émission, on va juste rappeler le numéro d'appel national mis en place pour signaler des cas de malveillance auprès des personnes âgées ou handicapées. C'est le 3977. Alors, Madame Claudine Rulot-Balta, est-ce que vous avez un message à diffuser à nos auditeurs aujourd'hui ?
Il y en aurait plusieurs, sans doute, mais c'est que il faut avoir confiance, je pense, dans les EHPAD, mais qu'il faut leur donner des moyens supplémentaires. Le président Macron l'a fait un discours il y a peu devant le Congrès. Il a en fait consacré quelques lignes au problème des personnes âgées dépendantes et salué le travail admirable des soignants. Bon, on ne peut que s'en réjouir, mais il a annoncé une grande loi pour l'an prochain, pour 2019. Que contiendra cette loi? C'est difficile de le savoir. Mais ce qui est certain, c'est, je redis ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il faut certainement beaucoup plus de personnel, mieux formé et surtout mieux payé, parce que c'est un grand sujet de revendication et c'est normal, parce que c'est un travail très difficile et les travaux les plus difficiles devraient être théoriquement les mieux payés.
Les mieux payés. Paula Leighton, à votre tour, dites-nous ce que vous attendez aujourd'hui pour notamment améliorer la condition de prise en charge des personnes âgées.
Déjà dire que ce métier, c'est un super métier, être soignante. Mais c'est vrai qu'il n'est pas assez valorisé. J'espère et je croise les doigts qu'il fasse quelque chose. Déjà plus de personnel. Et pareil, toujours la même chose, le salaire.
Et enfin, docteur Maubourguet, dites-nous ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut dire d'important autour de la prise en charge des personnes âgées dépendantes.
Mais écoutez, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. La population vieillit, on le sait. On parle aujourd'hui de superdépendance. Il est important de se donner d'ores et déjà les moyens aujourd'hui, que ce soit en personnel, en qualification, peut-être inventer de nouveaux métiers, faciliter ce travail-là dans les écoles d'infirmières, dans les écoles d'aide-soignants, aux facultés de médecine également, pour recevoir les médecins, pour qu'il y ait de la pétence à la gériatrie. Mais tout ça ne se fait pas sans moyens. Donc
Plus de moyens.
Voilà, exactement.
Madame Clotine Rulot-Balta, vous avez juste 30 secondes. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, les familles sont de plus en plus éclatées et souvent absentes. Et les familles recomposées ou décomposées, comme on voudra. Donc, ce qui fait que très souvent, même les résidents n'ont plus ou pas d'aide directe au niveau familial. D'autant qu'avec le vieillissement de la population, les enfants ne sont quelquefois plus très jeunes, ni même en mesure d'apporter leur aide.
Une difficulté supplémentaire.
Priorité santé sur RFI.
Focus à présent sur une unité innovante pour la prise en charge ambulatoire des troubles du comportement alimentaire chez l'adolescent à l'hôpital Jean Verdier à PHP de Bondy. Le TCA ou trouble du comportement alimentaire concernerait potentiellement 1400 adolescents sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec la docteure Noël Pompuy. Bonjour.
Bonjour.
Docteur, pouvez-vous nous dire que sont les TCA, ces troubles du comportement alimentaire ?
Alors, c'est les deux grands types de troubles que l'on référence sont l'anorexie mentale. Donc, c'est un trouble qui est marqué par une restriction alimentaire, c'est-à-dire que les patientes, le plus souvent, ce sont des femmes, puisqu'il y a un sex ratio de 9 femmes pour un homme, commencent à ne plus manger ou à moins manger et des cognitions vont commencer à apparaître, c'est-à-dire des idées sur l'apparence physique, etc., qui vont entretenir le trouble par la suite. Et l'autre grand type de trouble, ce sont les boulimies. Les boulimies, ce sont des comportements de suralimentation qui arrivent par crise avec des impulsions et qui sont souvent suivis de culpabilité et de vomissements pour essayer de compenser. Donc le gros risque serait, ce sont des pertes de poids, ce sont des atteintes organiques sur la croissance, le métabolisme et la santé globale.
Vous avez mis justement en place un projet qui prend en charge des adolescents souffrant de ces troubles alimentaires. Quel est l'objectif du programme ?
Alors, en fait, le programme est assez innovant parce que jusqu'à présent, depuis environ 40 ans, le modèle qui prédomine, c'est un modèle d'hospitalisation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire rentrer les patientes à l'intérieur de l'hôpital et de traiter les troubles à l'intérieur. Il y a eu des périodes où on faisait des contrats de poids, c'est-à-dire on essayait de motiver les patientes à manger, mais tout se passait entre la patiente et l'équipe hospitalière, et la famille était souvent tenue à l'écart, voire même culpabilisée, parce qu'on avait des idées sur une étiologie qui était liée à la famille.
Alors que là, elle participe, la famille participe au programme.
Alors, au contraire, la famille, nous, est le centre du dispositif. Mm-hmm. Donc c'est un modèle qui, en fait, c'est le modèle du Motley Hospital à Londres, qui est un modèle qui est utilisé dans plusieurs pays maintenant, et en Angleterre, qui est diffusé partout, dans tous les centres qui prennent en charge les troubles du comportement alimentaire de l'adolescent. Ce que je dis bien, c'est une méthode spécifique pour l'adolescent. Mmh. C'est un peu différent à l'âge adulte, c'est un peu différent chez les tout-petits. Et l'objectif, c'est de maintenir le plus possible la patiente dans son milieu de vie naturel, c'est-à-dire avec sa famille, à l'école, avec ses amis, etc., pour éviter les ruptures qui sont liées à l'hospitalisation.
Et pourquoi l'avoir implanté en Seine-Saint-Denis ?
Alors pourquoi en Seine-Saint-Denis ? Parce qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas grand-chose, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Qu'il y a un hôpital qui est en train de faire sa transformation, qui est l'hôpital Jean Verdier, sur lequel il y a un gros projet ambulatoire, c'est-à-dire devenir un hôpital tourné vers la ville et vers des soins de proximité, et de diminuer le recours à l'hospitalisation trop conventionnelle, c'est-à-dire d'essayer d'être beaucoup plus dans des soins articulés à la ville et à la vie des personnes. Voilà. L'autre chose sur la Seine-Saint-Denis, c'est que nous avions des équipes qui collaborent ensemble en pédiatrie et en pédopsychiatrie depuis près de 30 ans, et que nous avons travaillé autour de ces situations à trouver un modèle qui était le plus pertinent possible pour les prendre en charge. Donc c'est parti aussi d'une volonté locale. Hein. C'était pas aujourd'hui, c'est essentiellement l'hôpital Jean Verdier à Vicennes, bien sûr avec la PHP, et mon hôpital, l'hôpital de Villers-Évrard, qui est un hôpital psychiatrique, qui portons ce projet-là, et c'est notre motivation.
Docteur Noël Pompuy, en quelques mots, un message à nous laisser.
Alors, le message à laisser, c'est que ce sont des troubles qui sont certes graves et qui inquiètent beaucoup, mais le fait d'avoir une unité spécialisée, eh bien, on repère plus facilement ces troubles. Et donc vraiment, c'est tout un travail de réseau, d'infirmières scolaires, médecins généralistes, centres de santé, pour soutenir les familles et les adresser. Et puis, on peut travailler à plusieurs spécialités ensemble, c'est-à-dire les pédiatres,
nous travaillons ensemble. Merci, voilà. Merci beaucoup, docteur Noël Pompuy. Priorité touche à sa fin. Merci à mes invités, docteur Nathalie Maubourguet, ainsi qu'à Paula Leighton et Madame Clotine, Rulot-Balta. Et merci à France Bleu de nous avoir permis de réaliser en direct de Gironde ce direct de Priorité Santé. Et merci à l'équipe de Priorité Santé, à Cétoussa Maquet, Ophélie Lassente et Didier Bleuf.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.